7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Et ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Bonsoir, Michael.
Bonsoir, Nicolas.
Direction les États-Unis, Michael, où se joue aujourd'hui le dernier Super Tuesday des primaires américaines.
Et c'est dans l'est du pays, hein, le New Jersey, qu'a débuté le vote ce matin. 5 autres États vont suivre en fonction des fuseaux horaires, le Montana, le Dakota du Sud et du Nord, et surtout la Californie et le Nouveau-Mexique. Alors, pas vraiment de suspense, hein, puisqu'avant même l'ouverture du scrutin, plusieurs grands médias américains annonçaient déjà qu'Hillary Clinton avait passé la barre du nombre de délégués, lui assurant de devenir la première femme à briguer la Maison-Blanche pour un grand parti américain. On verra donc la nuit prochaine si les pronostics étaient bons. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, ce soir, c'est l'une des questions majeures de cette campagne, celle de l'immigration. Bonsoir Frédéric Carbone, en direct de Washington.
Bonsoir Michael, bonsoir à tous.
Alors, question majeure et même ultra sensible, particulièrement bien sûr en Californie, Frédéric, où le Trumpisme a du mal à passer.
Évidemment, parce qu'en Californie, 40% de la population est d'origine hispanique. Et ça fait longtemps que les latinos ne vivent plus dans l'ombre. Le tissu associatif est puissant, il y a de nombreux élus. Autant vous dire que depuis que Donald Trump a lancé son appel au renforcement du mur et aux expulsions massives, c'est la mobilisation générale. Une responsable d'association raconte qu'elle enregistre des centaines d'inscriptions sur les listes électorales chaque semaine et les figures de la cause latino donnent de la voix. Eliseo Medina, qui a longtemps présidé en collectif pour la régularisation, fait en ce moment le tour du sud de la Californie.
C'est une crise existentielle. Et je dis à tous les latinos que le moment d'être entendu est venu. Ils doivent se faire connaître et voter, parce que si nous ne votons pas, nous nous retrouverons avec une cible dans le dos dessinée par M. Trump.
Ce serait le rêve, ajoute cet homme de 75 ans, si les hispaniques étaient la cause de l'échec de Donald Trump à la présidentielle. Aujourd'hui, moins de 20% de cette communauté a l'intention de voter pour lui, deux fois moins que pour George Bush en 2000, et le poids électoral est beaucoup plus important.
Ah oui, de fait. Et cette question, hein, des latinos, Frédéric, elle crée déjà de très vives tensions en Californie.
Oui, des tensions qui se manifestent lors de tous les meetings de Donald Trump. Il y a désormais en Californie des manifestations, des échauffourées, pratiquement à chaque fois que le candidat se déplace. C'est que cette question de l'immigration, elle est, comme le disait Eliseo Medina, existentielle. Écoutez par exemple Dean Russell. Il habite près de San Diego. Il dit avoir rejoint Donald Trump dès qu'il l'a entendu parler du mur avec le Mexique.
J'ai patrouillé à la frontière avec des groupes de citoyens pendant des années et j'étais là la nuit où les Mexicains ont traversé illégalement quand ils ont arraché son arme à un garde frontière et lui ont tiré 5 fois dans la tête et ont tué cet homme, père de 2 enfants de 1 an et 2 ans. Donc la sécurité aux frontières, c'est une question personnelle pour moi.
On touche donc à l'intime avec un débat enflammé qui dure depuis des mois maintenant et un impact sur la vie la plus quotidienne. Voici Ada Briceno, responsable d'une association caritative et qui habite Anaheim, une banlieue aisée tout près de Disneyland.
J'ai une voisine, Connie, que j'aime beaucoup et qui est une supportrice de Donald Trump. Le jour où j'allais manifester avec mon équipe contre lui, elle a posté sur Facebook une photo d'elle au meeting de Trump. J'ai du mal à admettre qu'elle mette un autocollant Trump à sa fenêtre, par exemple. Ça me fait beaucoup de peine parce que nous vivons à côté depuis 16 ans maintenant. Nous sommes immigrants et je me pose des questions sur ses opinions. Ce n'est pas une petite différence entre nous, c'est une différence majeure.
Et outre l'aspect politique, hein, Frédéric, on imagine de surcroît toutes les conséquences sur les échanges économiques entre les États-Unis et le Mexique.
Évidemment, vous avez une frontière longue de 200 kilomètres. Le sud de la Californie est la partie la plus peuplée de l'État. Les élus de cette région s'inquiètent donc d'une éventuelle crise avec le Mexique. C'est le cas de Marie Salas. Elle est maire d'une des plus grandes villes du comté de San Diego.
Il ignore les relations fortes que nous avons. Nous sommes très liés avec le Mexique ici et nous sommes totalement interdépendants sur le plan économique. Le Mexique est notre principal partenaire commercial, plus de 600 milliards de dollars d'échanges chaque année. De nombreux travailleurs sont légaux. Ils ont des permis de travail, d'autres n'ont pas de papier, mais ils travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, les jardins, la construction. Tous ces secteurs dépendent du Mexique et des migrants.
Cet élu est démocrate, mais en Californie, les inquiétudes après les prises de position de Donald Trump vont bien au-delà de ce parti. Aujourd'hui, lors de la primaire, sans enjeu chez les Républicains, l'ancien gouverneur Schwarzenegger et un des fils de Ronald Reagan ont annoncé qu'ils ne voteront pas pour Donald Trump.
Frédéric Carbone, en direct de Washington et de retour de Californie. Merci beaucoup Frédéric.
Allez, maintenant, on file à Strasbourg, Michael, où la Commission européenne vient tout juste de dévoiler un nouveau plan d'action face à l'afflux des migrants en Méditerranée.
Les plans présentés effectivement aux eurodéputés il y a quelques minutes par le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, et par la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Alors, esprit de ce plan, mieux utiliser les fonds européens pour réellement promouvoir l'investissement privé dans les pays d'origine des migrants, en particulier l'Afrique, et ainsi tenter de freiner le nombre de candidats à l'exil. Nouvelle politique européenne formulée telle quelle par Frans Timmermans lui-même, en exclusivité au micro France Inter de Quentin Dickinson.
Ce que vous proposez, c'est une forme de nouveau partenariat avec l'Afrique.
Oui, on essaye de coordonner les efforts entre États membres et la Commission pour pouvoir créer une plateforme pour des accords avec les États en Afrique, pour leur donner la possibilité d'un développement qui puisse aider à maintenir leur population dans leur pays. Ce qu'on veut faire, c'est de créer des compacts sur le développement dans ces pays pour éviter le départ de leur jeune génération vers l'Europe.
Oui, mais enfin ça, c'est une tendance qu'on connaît depuis très longtemps. L'Europe est le premier donateur international en Afrique. Comment se fait-il qu'on n'ait pas déjà eu cette conditionnalité ?
Parce que c'est fait individuellement par des États membres. Il n'y a pas de coordination. Ce qu'on propose de faire, c'est de créer une politique à l'échelle européenne qui est coordonnée avec les États membres, qui ne laisse pas d'ambiguïté sur ce qu'on veut atteindre et qui ne permette plus aux États individuels africains d'avoir des relations individuelles avec des États membres et jouant les uns contre les autres. Il faut avoir une coordination qui nous puisse aider à créer un développement soutenable pour une économie qui puisse donner de l'emploi à la jeune génération.
Mais il y a une forte conditionnalité. Comment est-ce que vous allez faire pour la contrôler ?
On devra voir comment ça s'applique en pratique. Jusqu'à présent, avec le Niger, par exemple, on a eu pas mal de succès. Éthiopie, déjà, les premiers résultats. Donc il faut bâtir sur ce qu'on a déjà fait et créer de nouveaux succès. Et ça prendra du temps. Mais on aura, si les États membres font la même chose que nous faisons, on aura au moins 1 milliard d'euros pour les prochaines années pour déjà entamer des projets avec des pays comme le Niger, le Nigeria, le Mali.
Voilà, Frans Timmermans, donc vice-président de la Commission européenne avec Quentin Dickinson. Et pour faciliter les renvois de migrants vers leur pays d'origine quand ils ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié, eh bien la Commission européenne veut aussi, je cite, « accélérer la négociation d'accords de réadmission avec des pays clés africains, mais aussi avec le Pakistan et l'Afghanistan ». Mais là, sans dire comment.
Et pour finir, Michael, plonger dans le plus grand marché aux poissons du monde, un endroit fabuleux.
Ah oui, le célébrissime Tsukiji, le marché aux poissons de Tokyo, l'un des sites absolument immanquables du Japon, mais hélas, plus pour très longtemps, car trop à l'étroit, trop ancien, plus aux normes, Tsukiji va disparaître, déménager en fait. Alors dernière visite, ou presque, de ce marché unique au monde, avec Karine Nishimura-Poupée.
5 heures du matin à Tsukiji, l'heure des enchères de thon. Seuls les initiés comprennent ce qui se joue ici dans les quelques dizaines de minutes qui font la renommée internationale du plus grand marché aux poissons du monde. Tsukiji, on en parle souvent peu après le nouvel an, lors de la première criée de l'année, lorsque le rond maguro, le thon rouge, se monnaie parfois à des tarifs records jusqu'à plus d'1 million d'euros. C'est toujours le même qui gagne ces dernières années, Kiyoshi Kimura, le roi des sushis qui, malgré le prix payé, est toujours ravi.
Il y a une belle couche de graisse là, j'ai vraiment acheté le plus beau thon, je suis content.
Tsukiji, ce sont des chiffres à donner le tournis. 42 000 visiteurs par jour, des milliers de camions, 480 sortes de poissons, 270 variétés de fruits et légumes, 3 000 tonnes de marchandises vendues quotidiennement, 15 millions d'euros de recettes journalières. Tsukiji, ce sont des étals de poissons à n'en plus finir, des monceaux de boîtes de polystyrène, des tonnes de glaçons, des coups de couteau, des hommes qui crient, qui rient, qui déboulent à toute vitesse debout sur des chariots électriques, à vélo, au milieu des chalands, mi-amusés, mi-apeurés. Tsukiji, ce sont des dizaines d'échoppes où l'on avale en vitesse des sushis et sashimi, des soupes, des légumes et des crevettes panées. Tsukiji, c'est un passage des années en arrière dans le Tokyo de l'ère Showa, des années 50-60, avec ses vendeurs en bottes de caoutchouc, serviettes nouées sur la tête, des grandes gueules, des visages marqués et des jeunes dont la motivation fait plaisir à voir. Les mêmes gars sont toujours là depuis un demi-siècle ou plus parfois, comme Masakasu Manome.
Ça fait 50 ans et la boutique 80, elle a ouvert en même temps que le marché.
Hélas, c'est terminé. Tsukiji vit ses derniers mois. En novembre, le marché déménagera, clôturant plus de 8 décennies d'histoire. Après des années de débats, tergiversations, reports et quelques épisodes mélodramatiques, comme lorsque l'acheteur de thon Kimura a dit renoncer à un vaste projet de galerie de restaurant à côté du nouveau marché.
C'est une décision qui me déchire le cœur. J'ai tellement travaillé d'arrache-pied avec l'aide de tout le monde. Je voulais tant créer un nouveau Japon.
Les raisons du déménagement de Tsukiji, elles, tout le monde les comprend, même le vétéran Manome.
C'est vieux ici. Et du point de vue parasismique, s'il se produit un gros séisme, c'est dangereux. Donc, face à ces problèmes, ils ont décidé de créer un nouveau marché ailleurs. On n'est pas contre le fait de déménager, mais ici, c'était plus commode. Là-bas, Toyosu, c'est loin. Transporter les produits ne sera pas facile. Les clients ne viendront pas.
Tous apparaissent presque résignés, mais désolés de perdre l'ambiance de Tsukiji, comme le marchand Naoya Kodoi.
Je suis triste. C'est un marché historique. À Toyosu, ce sera complètement différent. Les particuliers ne pourront pas y entrer. Il sera fermé. Au départ, les acheteurs viendront pour voir, mais ensuite, tout se traitera par fax et par téléphone.
Triste quand il parle de Toyosu, le visage de Naoya Kadoi s'éclaire pourtant lorsqu'il révèle un autre changement.
On va recréer un autre marché pas loin d'ici, vous le saviez ça? Ce sera le marché de Tsukiji. Et si dans un premier temps, les clients iront voir à Toyosu, petit à petit, ils ne viendront plus qu'ici.
Un lieu plus petit avec 60 grossistes, dont Monsieur Kodoi, pas d'enchères, mais le nom de lieu Tsukiji et la proximité des restaurants du cœur de Tokyo.
Voilà, le Tsukiji historique, le marché aux poissons de Tokyo, qui vit donc ses dernières heures, en tout cas ses derniers mois, hein, jusqu'en novembre prochain. Reportage signé Karine Nishimura-Poupée et Nicolas, à demain.